Voilà, bonjour à vous qui êtes ici présents dans l'auditoire et bonjour à ceux qui nous suivent en direct sur YouTube et qui pourront nous suivre également en différé plus tard avec un lien qui sera sur le site. Alors nous sommes aujourd'hui le lundi 9 novembre et nous prenons le chapitre 4, du cours qui s'intitule « L'insoutenable légèreté de l'homme ». Donc, comme vous le savez, c'est un cours d'anthropologie, où il y a déjà eu une introduction, un premier chapitre sur le corps, un deuxième chapitre sur la liberté, un troisième chapitre sur le langage, et maintenant nous sommes dans le chapitre 4 sur la société. Alors, je vais d'abord en introduction refaire un peu le parcours que nous avons eu jusque maintenant. Reprise et transition. Souvenez-vous, dans l'introduction, Aristote et Thomas ont défini la personne humaine comme un être doué d'un corps et d'une âme. Définition assez sommaire, qu'on peut développer. Balthazar a complété cette vision en parlant, lui, eh bien, des trois polarités. Corps et âme, corps-esprit, c'en est une, mais il y a aussi pour lui, homme et femme, individu, communauté. Et donc, définir l'être humain, c'est prendre ces trois polarités, qui sont chaque fois trois tensions, qui permettent de définir l'homme. Alors, le premier chapitre a commencé un parcours complet, en déployant donc d'abord le corps, comme donnée immédiate incontournable, point de départ anthropologique obligé, le corps. Nous avons parlé du corps en le situant d'abord comme une des quatre dimensions anthropologiques. Alors, souvenez-vous de ce triangle avec les quatre couches. En dessous, vous avez justement le corps, et puis le psychisme, les affects donc, la raison, qui se divise en intelligence et volonté. La volonté est une faculté raisonnable chez l'homme. Et enfin, la liberté. Avec ces quatre dimensions anthropologiques, nous avons mieux situé le corps par rapport à l'esprit, en voyant des médiations. Entre le corps et l'esprit, il y a le psychisme, il y a la raison. Et dans ce premier chapitre aussi, nous avons déjà commencé à étudier un peu la polarité homme-femme en lisant le livre de Max Scheler sur la pudeur. Dans le deuxième chapitre, grâce aux quatre semaines des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, nous avons déployé davantage les puissances de la personne, en reconnaissant donc la faculté la plus éminente comme étant la liberté. Mais la liberté, c'est une synergie entre mémoire, intelligence et volonté. C'est ça la liberté. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on a envie, c'est d'avoir la mémoire de tout ce qu'on est, l'intelligence de ce qu'on est et vouloir en fonction de cela. Les quatre temps de la liberté se déployaient un peu dans cette même optique des quatre semaines avec intention, choix, travail, jouissance. Ces quatre temps permettent de mettre en évidence deux définitions de la liberté, une définition assez partielle, mais qui est celle qui domine assez souvent et qui est très courante, c'est « j'ai la liberté de choisir ». Mais le choix, ce n'est que le deuxième temps de la liberté. Il y a l'intention, le choix. Alors, nous définissons la liberté de manière plus spirituelle, en ajoutant le temps du travail et le temps de la jouissance, de la fruitio, en disant « est libre non pas celui qui choisit, mais celui qui réalise ce qu'il choisit, qui va jusqu'au bout de la réalisation de son choix. Ça, c'est la vraie liberté spirituelle. Dans le chapitre 3, nous avons parlé donc du langage, et nous avons, greffé notre réflexion sur le langage, sur ces deux définitions de la liberté, justement. Une liberté dialectique de désir, toujours choisir, toujours nier ce qu'on a choisi pour choisir autre chose, ou bien une dialectique plus réconciliée de l'esprit. Et nous avons considéré que, au fond, cette première manière de définir le langage comme instrument d'une pensée dominatrice est un peu la pensée de la Grèce, mais aussi souvent de l'Occident analytique, etc. Tandis qu'il y a une autre conception du langage, beaucoup plus complète, qui considère le langage comme la matrice de la pensée, des sentiments, de l'expression. Une matrice qui précède et qui enfante toute pensée. Ça, c'est plutôt là, eh bien, une conception plus hébraïque, plus biblique. Et maintenant, nous passons au chapitre 4 sur la société. Et je voudrais marquer le lien qui existe entre le langage et la société. La société, ce sont des personnes ensemble qui ont une liberté et qui l'expriment grâce au langage. C'est comme ça que je lis le chapitre 4 avec les deux précédents. Qu'est-ce que c'est une société ? Eh bien, ce sont des libertés, chapitre 2, qui communiquent entre elles pour justement poursuivre des projets, donner sens à la vie, donner valeur à nos actions. Vous vous souvenez peut-être qu'Isabelle de Maufard un jour l'a posé la question en disant que ma définition de la liberté était très individualiste. Et c'est vrai, je concède qu'au chapitre 2, eh bien, j'étais encore dans l'individualisme. Mais avec ce chapitre 3 et surtout 4, 5, nous entrons dans le pluriel des libertés. Ce n'est plus la liberté au singulier, c'est les libertés au pluriel qui communiquent entre elles par le langage et qui décident des choses et qui font l'histoire. Voilà, langage et société. Donc, qu'est-ce que c'est une société ? C'est un ensemble d'individus, de personnes qui parlent et qui se parlent et qui, en se parlant, eh bien, expriment leurs différences. Moi, je suis cela, toi, tu n'es pas cela, toi, tu es autre chose, tu es différent. Mais il n'y a pas que l'expression de nos différences, il y a aussi la recherche d'une référence commune, d'une unité. Quoique différents, nous cherchons tous le bonheur ensemble. Et donc, voilà, le langage va permettre aux individus d'exprimer, de manifester, parfois d'ailleurs avec violence, comme dans les discours politiques, etc., leurs différences avec les autres, mais aussi à la recherche d'une unité, d'un bien commun. Alors voilà, vous avez dans le cadre de votre feuille de route, là en bas, différentes catégories dont je vais parler tout au long de ce cours. Vous voyez que de nouveau j'ai repris les quatre dimensions anthropologiques, le corps, le psychisme, la raison, l'esprit. Et voilà, j'indique déjà que c'est par le langage que se forme la société et que cette société, eh bien, elle cherche à intégrer toutes les différences que nous avons en vue de unité d'une référence commune qui est au fond, tout au-dessus, là vous voyez, le bien commun. Et qu'est-ce que c'est le bien commun ? Ben, on en discute beaucoup, chacun a son idée, mais c'est à force d'en discuter qu'on parvient plus ou moins à se mettre d'accord sur une recherche commune et à créer un lien social dans l'ordre. Vous voyez là, ce sont aussi des catégories que j'ai indiquées, à côté de, sur la ligne de la volonté. La liberté, dans l'histoire, eh bien, recherche un ordre et essaye de créer un lien social. Le lien social est une catégorie très importante. Voilà, parce qu'au fond, eh bien, la valeur suprême, c'est l'amour, la communion de tous dans l'amour. Mais voilà, eh bien, par le langage, nous voyons qu'il y a bien des différences sur la conception que nous avons de cet amour. Et donc, dans le langage, les hommes articulent à la fois leurs différences et leur recherche d'une référence commune. S'ils n'articulaient que leurs différences, nous serions un peu comme dans une définition dialectique négative de la liberté. On exprime son désir, toujours, on veut plus, on réclame plus, on revendique plus. Tandis que si on va plus loin, non seulement on revendique, mais on essaye ensemble de construire le bien commun. Alors là, on se trouve davantage dans une définition positive de la liberté, spirituelle de la liberté. Voilà, donc j'ai fait la reprise des transitions, j'ai parlé de langage et société. On ne crée pas une société sans langage. Il faut parler. Dans la société, on parle beaucoup. Les relations aux autres et les sphères sociales. Alors, le genre humain, ce n'est pas seulement une espèce animale, c'est aussi un ensemble de générations qui se succèdent. C'est une histoire d'engendrement. D'ailleurs, l'histoire en hébreu se dit toledot, et toledot, ça veut dire les générations. Je vais vous raconter l'histoire d'Israël, on dit je vais vous raconter les générations d'Israël. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. On définit l'histoire par eh bien, ce lien qui lie les personnes humaines les unes par rapport aux autres, les unes à partir des autres. Hein. Un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Voilà. L'histoire, c'est le fruit d'un immense engendrement de générations qui crée toutes sortes de relations verticales dans le temps, mais aussi horizontales dans la synchronie, si on veut, hein, dans la simultanéité des personnes qui vivent de manière contemporaine. Alors ces personnes qui sont engendrées dans la société et dans l'histoire, elles sont proches et elles sont lointaines. Voilà un paradoxe hein, qui est très important. Elles sont proches parce que chacun, évidemment, est né d'un père et d'une mère qui sont tout proches, mais en même temps, ils sont les contemporains eh bien, d'un Chinois qu'il n'a jamais vu, mais il sait bien qu'il y a là un milliard ou plus de Chinois, hein, qu'il y a là des millions d'Africains, d'Américains, etc. Tous ces gens aussi sont contemporains. Il fait partie, hein, pas seulement de sa petite famille, ni de la petite Belgique, mais il est un citoyen du monde. Donc il y a à la fois nos contemporains, nos congénères, si on veut, sont à la fois très proches. Il n'y a pas moyen de vivre sans une grande proximité avec certaines personnes. Et à la fois, ils sont très lointains. Et même ces très lointains ont une grande influence sur nous, puisque, eh bien, par exemple, le Covid, il semble que ça vienne de très loin, de la Chine. On n'a rien à voir avec eux, on n'a rien à voir avec eux, et pourtant, ben, on est dans le même bain qu'eux. Hein. Voilà, c'est bien la preuve. Ils sont, malgré tout, plus proches qu'on croyait, tout en restant lointains. Mais justement, il faut faire une grande différence entre nos congénères qui sont proches hein, et ceux qui sont lointains. Et c'est ça la différence que je fais avec Ricoeur d'ailleurs. Hein. C'était d'ailleurs la petite photo d'ouverture de notre web YouTube. Le prochain et le socius. C'est un chapitre de ce livre, hein, Histoire et vérité de Ricoeur. Le prochain et le socius. Le prochain, c'est celui qui est proche. Et qui est défini comme celui qui est à portée de parole. Voilà, à portée de parole. Et celui qui est lointain, c'est le socius. Avec le socius, j'ai aussi une relation. Hein. Mais une relation longue, parce qu'il n'est pas à portée de parole. Hein. Si je veux aller parler avec M. Trump, ou bien si je veux parler avec Poutine, je ne peux pas le faire. Il est trop loin. Hein. C'est une relation longue. Et pourtant, ben, ce qu'il fait ben, a de l'importance pour moi, pour ma vie, pour mon histoire. Mais les relations courtes avec le prochain, eh bien, elles sont plus transparentes, plus claires, parce qu'on peut s'expliquer, on peut redire les choses, on parle des heures et des mois et des années avec les membres de sa famille, évidemment. Tandis qu'avec les gens qui sont lointains, et qui sont engagés dans des sphères sociales beaucoup plus larges, eh bien nous n'avons pas hein, cette même capacité de parole. Les relations que nous avons avec eux sont opaques à la parole, hein, et pourtant elles sont là, elles sont importantes, elles sont multiples. Alors on pourrait donc définir les sphères sociales comme étant des cercles concentriques. Hein. Alors il y a la famille nucléaire, même la famille élargie, ça dépend un peu des cultures. Alors, au-delà de ces familles, eh bien, il y a les écoles pour les enfants, il y a les professions pour les adultes, il y a les loisirs pour tous, les clubs de ceci, de cela. Alors, toutes ces personnes se réunissent, enfin, ou sont réunies dans des régions, dans des pays. Et pour que tout ça fonctionne, il y a des circuits économiques, des circuits politiques, qui sont évidemment des choses qui définissent la société, je vais en parler. Donc des circuits économiques, des circuits politiques. Ce sont des rouages assez compliqués, hein, difficiles à modifier, mais ils sont là et ils tournent. C'est grâce à eux que nous avons à manger, que nous sommes soignés, que nous pouvons voyager, etc. Alors au-delà de la région et des pays, ben, il y a les continents, et puis finalement il y a la globalisation de la planète, avec, je dirais, comme deux institutions un peu phares, qu'on pourrait dire l'ONU, hein, et l'Église catholique, voilà, qui ne réunit pas tous les êtres humains, mais qui est peut-être l'institution qui réunit le plus de personnes avec l'ONU. Alors voilà, je précise le prochain et le socius, donc grand A. C'est donc une distinction que fait Ricoeur Et il commence d'ailleurs avec la parabole du bon samaritain. Est-ce que le blessé au bord de la route est le prochain du samaritain? Ben non, il ne le connaît pas. C'est un blessé quelconque, il n'a jamais vu. Mais il se fait le prochain de lui, parce qu'il vient auprès de lui, il lui parle, il prend soin de lui. Donc voilà, c'était un socius qui est devenu prochain. Pas tellement, parce qu'il le laisse ensuite à l'auberge, mais quand même, il y a eu un rapport, un contact très important. Mais il y a des tas de Samaritains, ou des tas de Juifs, ou des tas de personnes autres qui ne seront jamais mon prochain. Peuvent peut-être le devenir un par un, quelques-uns, mais très peu finalement, par rapport à toute l'humanité. Le prochain, c'est celui qui est défini, je l'ai dit, comme étant à hauteur de parole. Si je ne comprends pas ce que quelqu'un me dit, s'il est mon prochain, ben je vais le trouver, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as voulu dire, pourquoi tu as fait ça, je ne suis pas d'accord, ou bien au contraire, faisons ceci ensemble, etc. Il est à hauteur de parole. Dans les relations longues, nous ne sommes pas à hauteur de parole, il y a toute la médiation eh bien, des institutions, de ces sphères sociales qui sont instituées par l'homme, bien sûr, mais voilà, qui sont à la fois une médiation, ça veut dire quelque chose qui permet de transmettre, de passer à travers, mais qui est aussi un obstacle, parce que ce sont des médiations lourdes. Ce sont des médiations parfois séculaires, ce sont des médiations voilà, qui représentent beaucoup de rouages. Et dans ces relations longues, ce n'est pas toujours la parole qui est la plus significative pour que les gens communiquent entre eux, c'est un certain non-dit. Un certain non-dit qui s'exprime par des signes, par des gestes, par des symboles, parfois extrêmement brefs, et qui exprime beaucoup de choses au niveau de sa puissance, si on veut, mais aussi très peu de choses au niveau de l'explicitation. Par exemple, quand des dirigeants politiques se réunissent, on fait une photo, on fait une vidéo, la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils vont se rencontrer, la manière de qui est assis à droite, qui est assis à gauche, tout ça a beaucoup d'importance. On ne comprendra peut-être rien à ce qu'ils vont dire, parce qu'ils parlent une langue qu'on ne connaît pas, ou bien ils vont dire des choses qui sont trop compliquées, mais on dira « Ah, Trump était à côté de Poutine ». Alors, ça, c'est très important. Le fait qu'ils soient sur la même image. Ah oui, mais Trump était quand même plus grand. Oui, mais Poutine, il a quand même fait ceci ou fait cela, il a fait tel geste ou il a... Bon, on interprète des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont quand même exprimées par des gestes. Alors, par exemple, des choses très, très graves, si vous voulez, le signe nazi. Le signe nazi, si quelqu'un fait le signe nazi à un moment donné, dans une circonstance particulière, il n'y a pas besoin de faire de grands discours, tout le monde est choqué, ou bien tout le monde dit, il a raison, je ne sais pas quoi, ça dépend des circonstances. Mais donc, dans les relations longues, la parole est souvent remplacée par des choses extrêmement minimes, au niveau du symbole, mais très pesante au niveau de ce que ça veut dire. Dans une manifestation, les manifestants ne font pas chacun un discours, ils crient ensemble, nous ne voulons plus de cela, nous ne voulons plus de cela, nous ne voulons plus de cela. C'est une petite phrase qui est martelée, et voilà, c'est un non-dit. Dans cette phrase, il y a beaucoup de choses qui sont non-dites. Mais l'expression passe dans les grands groupes. C'est un peu la loi de McLuhan. Plus il y a de personnes, plus à qui on veut communiquer quelque chose, plus il faut que le message soit bref, et concis. Si j'ai une personne devant moi, je peux parler des heures. Si je suis devant 1000 personnes, je dois dire une phrase très simple, très claire et un peu un slogan. Et voilà. Donc plus il y a de personnes qui vont recevoir le message, plus le message doit être bref et percutant. Alors les relations personnelles, donc les relations courtes, je les analyse d'abord en prenant les trois pronoms je, tu, il. Je, tu, il, d'habitude on imagine les relations personnelles avec deux personnes. qui se disent l'une à l'autre « je et tu » et « je et tu » et « je et tu ». Voilà, une relation duelle dans laquelle on peut parler. Et c'est très bien, évidemment, vous connaissez le livre de Buber, hein, « Le je et le tu », voilà, hein, toute une philosophie de l'intersubjectivité, de la communication, etc. Mais très vite, on se rend compte que le « je » et le « tu », s'ils sont simplement l'un devant l'autre, eh bien, cette différence qu'ils vont exprimer vont rapidement manquer, je dirais, d'un support, d'un tiers. Parce que le seul support qu'on a, c'est l'autre, mais l'autre, il est à la fois juge et partie, si j'ose dire, hein, et donc... les différences pourraient vite tourner à opposition s'il n'y a pas un tiers, s'il n'y a pas un bien commun, s'il n'y a pas un principe de référence qui sera par exemple bien un intérêt qu'on a ensemble pour quelque chose. Voilà, deux amis, ben, pour communiquer entre eux, ben, ils vont aller se promener ou bien ils vont visiter quelque chose ou ils vont jouer de la musique ensemble, ou ils vont, voilà, un tiers. Le « je » et le « tu » a rapidement besoin d'un « il », d'un tiers, d'une chose ou d'une personne, hein, pour mieux communiquer. Sinon, l'exacerbation de ces deux subjectivités risque de tourner à opposition, irritation, etc. Dans une famille, eh bien, c'est la même chose aussi. Hein. Je dirais, le couple, eh bien, lorsqu'il a des enfants, les enfants sont le tiers qui permet au couple de dialoguer. Et ces enfants sont à la fois, je dirais, les bienvenus dans le couple, mais ils sont aussi, d'une certaine manière, nécessaires, parce que sinon ce couple risque un peu de tourner en rond. Le fait que le tiers apparaisse ne signifie pas que le « je » et le « tu » vont s'épuiser, hein, n'auront plus rien à se dire. Au contraire, ils auront plus à se dire s'il y a la médiation de ce « il ». Voilà, donc, le langage, c'est deux personnes qui se parlent, mais qui parlent à propos de quelque chose ou à propos de quelqu'un. Et l'autre, le troisième dont on parle, sera aussi celui qui va parler, hein, du « je » et du « tu ». Par exemple, les enfants parlent entre eux des parents, hein. Et eh bien, les parents sont un « je » et un « tu » l'un pour l'autre. Mais ils sont aussi un « il » pour les enfants, entre eux. Et donc, je dirais, ce sont des références communes que nous avons les uns par rapport aux autres. Hein. Le tiers est une référence commune pour le « je » et le « tu ». Le « il » est une référence commune pour le « je » et le « tu ». Et permet de mieux communiquer entre le « je » et le « tu ». Évidemment, c'est un cercle sans fin, hein, parce que chacun est à la fois « je »,« tu » et « il ». Ce sont les positions. Mais voilà. Donc le « il » est finalement nécessaire au « je » et au « tu ». C'est ça que je veux dire. Il faut que chacun entre dans la position du « il », qu'il soit lui-même un « il », qu'il ait des « il » autour de lui, dont il parle avec « tu », etc. Bon, je crois que vous comprenez. Il y a aussi des gens qui parlent, non pas en s'adressant directement à quelqu'un, mais à un groupe, et qui sont des témoins, Donc, par exemple, eh bien, voilà, je dirais l'abbé Pierre qui parle à la télévision, hein, il dit quelque chose, il le dit à tout le monde, et il est un « il » pour tous ceux qui le regardent, et ce « il » exprime une valeur, une vérité. Hein. Il est le témoin de quelque chose qu'il vit, d'un bien qu'il exprime, et auquel il convie les autres à participer. Il explique son action, et il dit à tout le monde, eh bien, venez faire un peu la même chose, etc., prenons soin de ceci et de cela. Donc le témoin, c'est un « il » que l'on voit devant nous, et qui vient proposer une parole à tous, pour témoigner, hein, d'une valeur ou d'un sens. Alors regardez, sens et valeur, je l'ai mis aussi dans l'encadré ici, hein. Donc j'ai mis institution, deux points, sens et valeur. Alors ça, c'est un doublet extrêmement important. Hein. Le sens, c'est ce qui se réfère à l'intelligence, et la valeur, ce qui se réfère à la volonté. C'est ce qui est désirable, et le sens, c'est ce qui est intelligible. Eh bien, nous vivons parce que nous sommes pris dans un, dans une vie qui fait sens. C'est, pour l'intelligence, c'est cohérent, c'est beau, c'est complet, etc. La vie fait sens et elle est bonne. Hein? Il y a une série de valeurs, de biens que nous estimons très élevés, que nous poursuivons. Donc le sens et la valeur, c'est ce qui fait, disons, le prix de la vie. Et c'est ce que s'expriment les uns aux autres, les personnes, comme prochains, mais aussi comme socius. Et qui vont être exprimés, ce sens et cette valeur, par les institutions elles-mêmes. Donc dans une relation longue. Et ça, je vais y venir. Donc, dans les relations longues, qui sont d'ordre politique, économique, voire religieuse, etc., il y a aussi l'expression, hein, de sens et de valeurs qu'on veut communiquer. Alors regardez là sur le petit encart de nouveau, hein, j'ai mis dans la colonne d'extrême droite des institutions qui présentent un sens et une valeur au niveau anthropologique qui était déterminé ici. Par exemple, eh bien, au niveau du corps, les clubs de sport proposent quelque chose qui correspond à un bien du corps. Faire du sport, etc., c'est bon pour la santé. Le club de sport, c'est une institution. Ce sont des hommes qui se mettent ensemble, qui parlent, qui décident, qui font quelque chose pour réunir des gens qui veulent poursuivre ensemble un bien. Lequel ? Eh bien, le bien du corps, et le plaisir de jouer au football, etc. Bon. Au niveau du psychisme, ce sont des exemples, hein. Au niveau du psychisme, ça veut dire du désir, du bonheur, hein, de l'affection, etc. Il y a l'institution du mariage, qui peut être monogamique ou polygamique. Ici, je n'entre pas dans cette distinction. Mais le mariage, c'est une institution. Ça veut dire une chose que des hommes ont décidé ensemble d'organiser de telle et telle manière. Pourquoi ? Eh bien, pour répondre aux désirs et aux besoins du psychisme. Alors au niveau de la raison, des biens que poursuit la raison, eh bien c'est par exemple le savoir, hein, le désir de connaître, eh bien toutes les écoles, les universités, etc., mettent en avant ce bien commun du savoir en disant, ben, tous ceux qui veulent savoir, ben, qu'ils viennent à l'école, et ensemble nous allons chercher le sens, hein, du savoir et la valeur du savoir. Je dirais qu'au niveau de la volonté, eh bien, les hommes font toutes sortes de choses et il faut que ce soit organisé de manière juste et de manière équilibrée, etc. La justice, les tribunaux, la politique, ce sont toutes sortes d'institutions qui permettent au bien de la volonté, eh bien, de se communiquer, hein, entre les personnes qui les désirent. Et au niveau de l'esprit, bon, il y a un désir spirituel, un goût pour la transcendance que l'Église peut représenter éventuellement. Hein, pour certains, elle est l'institution dans laquelle on poursuit non pas l'économie, non pas la politique, non pas le sport, hein, mais voilà, le goût de la transcendance. Quelque chose de l'ordre d'une rencontre avec Dieu. Ce n'est pas dans le club de sport qu'on fera de la politique, hein. Ce n'est pas non plus dans le mariage qu'on fera nécessairement du spirituel ou une recherche intellectuelle. Le mariage cherche autre chose. Hein. Évidemment, ces recherches peuvent un peu se combiner, bien sûr, et se croiser. Voilà, donc les structures sociales, il y a tous ces cercles, ces sphères sociales, hein, toutes ces structures que j'ai un peu évoquées comme des exemples, l'église, la justice, les écoles, le mariage, les clubs, etc. Chaque fois, c'est un groupe de personnes qui se réunissent et qui, à travers la parole et puis à travers des décisions qu'ils prennent, eh bien, poursuivent un bien commun. Alors ce bien commun peut être de valeur, disons, moindre dans telle ou telle institution, de valeur plus élevée dans telle autre. Mais c'est chaque fois un bien commun. Les gens sont différents et pourtant ils veulent se réunir dans cette référence commune qui est un bien commun qu'ils poursuivent. Alors je passe maintenant au point B, les institutions. Ici je voudrais surtout je vous le dis déjà, hein, que nous percevions bien ensemble la différence qu'il y a entre les structures et les institutions. Vous voyez que ces deux choses que j'ai mis en gras, hein, sur le, dans l'encadré, structure et institution. Ça peut paraître assez semblable, et parfois d'ailleurs, hein, on confond beaucoup dans le langage, on parle des structures sociales, etc. Mais je voudrais, disons pour la finesse de l'exposé, hein, marquer la différence qu'il y a entre une structure et une institution. Alors, définition et rôle de l'institution et de l'autorité, avec d'abord, voilà, définition de l'institution. L'institution, c'est une détermination que les hommes se donnent, une détermination sociale et historique, par laquelle l'homme médiatise et communique pour l'homme sens et valeurs. C'est la dernière phrase de votre feuille, en dessous. J'ai donné la définition de l'institution et de la structure. L'institution, c'est par exemple une école, c'est par exemple un club, c'est par exemple un parti politique, c'est par exemple l'église. C'est quoi ? Eh bien, l'institution, c'est une détermination sociale. On s'organise comme ceci et comme ceci, avec les personnes qui sont là, et historique. Ça veut dire qu'elle a été instituée à un moment donné, et d'habitude, elle survit, hein, pendant quelques années, ou parfois même pendant des générations, des siècles. L'institution, c'est une détermination sociale et historique, donc une organisation qui traverse le temps, et grâce à laquelle l'homme en général, hein, médiatise et communique pour l'homme sens et valeurs. Prenons par exemple l'exemple de l'université. Ben, l'université de Louvain a été fondée, moi je ne sais plus quand, en 1425, hein, c'est ça. Bon, à un moment donné, hops, on a dit on fait l'université, on fait comme ceci, on fait comme ça, etc. Bon, il y a eu bien sûr des pères fondateurs sans doute, mais on les a oubliés. Et ils ont transmis un goût du savoir, un sens, hein, de la connaissance humaine, une valeur, un goût, un intérêt pour cette connaissance. Ils l'ont transmise, ils l'ont médiatisée en donnant des cours, et ils l'ont transmise à la génération suivante, et la génération suivante à la suivante à la suivante, Tolédote, hein. Jusqu'aujourd'hui, cette université existe toujours, elle aura bientôt 600 ans. Hein. Ah bien, c'est magnifique, c'est une institution qui traverse le temps. L'Église, bon, a été fondée aussi, hein, comme vous savez, il y a bien longtemps, elle traverse le temps, et donc, ces institutions, l'université par exemple, ou l'Église, ce sont des déterminations sociales, ça veut dire une organisation de personnes, et historiques, ça veut dire qu'ils dépassent, hein, dans le temps. Eh bien, l'existence des personnes qui les ont instituées, grâce à laquelle l'homme en général, c'est-à-dire un ensemble d'hommes bien sûr, hein, qui se mettent ensemble, d'hommes et de femmes et de etc., qui médiatisent et communiquent les uns pour les autres sens et valeurs. Et donc l'institution, c'est quelque chose qui est institué, c'est quelque chose qui est voulu. C'est le fruit d'une volonté, et d'une volonté commune. Hein? Des gens se mettent ensemble, font des règles, et puis instantanément, bon, ben, le fondateur, il est dépassé, je dirais, par la règle. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il est mécontent, hein? Au contraire, mais la règle est plus importante que le fondateur. On ne sait plus quels sont les pères fondateurs de l'université. Hein? Mais on sait qu'elle fonctionne grâce à tout un règlement d'ordre intérieur, avec tous des statuts, des facultés, des conseils et tout ce que vous voulez. C'est un mécanisme très compliqué, mais qui fonctionne, et dont le but est quoi ? Eh bien, de faire de la recherche, et de communiquer les fruits de cette recherche, de cette connaissance, aux générations qui viennent, qui s'y intéresseront, qui entreront dans ces institutions, qui entreront parfois en peinant beaucoup, hein, parce qu'ils doivent apprendre des tas de trucs et c'est pas facile, et même peut-être qu'ils vont un peu se révolter, peut-être même qu'ils vont dire oui mais c'est pas comme ça qu'on fait de la science, oui mais c'est pas ces valeurs-là qu'il faut mettre en avant. Donc il y aura des conflits de génération sans doute, c'est pourquoi aussi j'ai indiqué conflit, hein, au-dessus d'institution, conflit et intégration. Il y aura des conflits, d'ailleurs ça avance aussi grâce à ce renouvellement des contestations. Mais il faut aussi évidemment que ces conflits ne détruisent pas l'institution et que finalement les critiques soient intégrées dans un nouveau dynamisme. Voilà, l'institution donc c'est quelque chose qui est déterminé, c'est bien précis, On ne confond pas une université avec un club de football ou avec une église. Non, c'est déterminé. C'est historique, ça traverse le temps. Et voilà, ça permet aux hommes de poursuivre des valeurs et un sens à leur vie. Alors il faut que les institutions manifestent bien le sens et la valeur qu'elles poursuivent. Si une institution ne manifeste pas suffisamment clairement ce qu'elle poursuit, eh bien, elle va se déglinguer. Une université qui dit, nous faisons de la recherche, et puis finalement, on voit que cette recherche est tout à fait médiocre, etc., cette université va être progressivement abandonnée, etc., elle va être dépréciée, et voilà. Donc, il faut que l'institution soit à la hauteur de ses prétentions, que le sens et la valeur qu'il poursuive, soient crédibles, qu'ils soient clairement manifestés et qu'ils soient transmis de la manière la plus efficace possible. Par exemple, dans l'Église aujourd'hui, il y a toutes sortes de problèmes qui décrédibilisent des autorités religieuses et qui mettent en péril la transmission des vraies valeurs chrétiennes qui existent. Si les personnes qui portent cette institution ne sont pas elles-mêmes fidèles à ce sens et à cette valeur, l'institution est en péril. Pour justement que cette institution vive comme il faut, il faut donc que des personnes s'y engagent, mais s'y soumettent aussi. Ce n'est pas n'importe comment qu'on devient Ronaldo, ce n'est pas n'importe comment qu'on devient recteur d'université ou cardinal de Belgique. On se soumet à tout un parcours, tout un travail, où justement la liberté, joue beaucoup, la liberté individuelle, qui est à la fois portée par l'institution, mais qui pèse aussi sur la personne en exigeant des choses d'elle. Les personnes qui représentent vraiment les valeurs et le sens d'une institution, ce sont les personnes qui font autorité. Voilà, c'est ça la définition de l'autorité. L'autorité, c'est d'incarner parfaitement le sens et la valeur que l'institution veut transmettre, qu'elle prétend transmettre. Donc, le pape François, je pense, actuellement, est vraiment quelqu'un qui manifeste bien le sens et la valeur que l'Église catholique veut transmettre. Et donc, il fait autorité, pas seulement parce qu'il est le pape, mais parce qu'il est cohérent avec les valeurs qui sont prétendues, manifestées et transmises par l'Église. Mère Teresa, par exemple, elle fait autorité. Elle fait autorité parce qu'elle est vraiment cohérente avec la congrégation qu'elle a fondée. Et en même temps, cette autorité vient de la personne, mais vient aussi de l'institution qui porte cette personne. Quand même, le pape, il a été élu pape. Einstein, il faisait autorité, mais aussi parce qu'il était dans une université de renom, au Princeton. Sans université, il n'aurait peut-être pas du tout pu faire tout ce qu'il a fait. Mère Teresa, son témoignage est extraordinaire, mais si elle n'avait pas fondé une congrégation qui dure dans le temps, qui rassemble d'autres personnes, il n'y a pas grand monde qui aurait connu son témoignage. Donc c'était la personne qui fait autorité est à la fois une personne individuelle, dirais-je, mais aussi une personne qui est complètement, assimilée à l'institution et qui est la plus identique possible avec le sens et la valeur que veut transmettre cette institution. Maintenant, la distinction que je vais faire entre institution et structure, elle vient ici. Toutes ces institutions, pourquoi est-ce qu'elles naissent? Pourquoi est-ce que tout à coup on décide de faire une université ou un club? Parce qu'il y a des structures individuelles et des structures sociales qui sont à la base de ces institutions et qui portent ces institutions et qui ne demandent qu'une chose, c'est à être formatées dans une institution. Les structures, ce sont des, comme il est indiqué là sur la feuille en dessous, un ensemble déterminé et organisé de forces dans la société, il y a des forces sociales extrêmement puissantes, extrêmement déterminées, et qui doivent être canalisées, formatées dans telle ou telle institution. Ces forces, ces structures, sont comme une pulsion dans l'inconscient social, dans l'inconscient collectif. Par exemple, bien au niveau du corps, je dirais, les êtres humains, non seulement à un niveau individuel, ont envie de bouger, ont envie de jouer, ont envie de courir et tout ça. Mais ils ont envie aussi d'entrer un peu en rivalité, de faire des jeux, de faire des compétitions, tout ça. C'est une structure humaine et sociale qui s'institutionnalise à l'intérieur, par exemple, d'un club de sport. L'être humain, à un niveau individuel, aussi à un niveau collectif, désire savoir. Non seulement chacun de nous désire savoir, mais dès que quelqu'un sait plus que moi, j'ai envie de savoir ce qu'il sait. Si on est copains, on s'enseigne l'un l'autre, mais si on n'est pas copains, on fait sa recherche chacun de son côté, on essaie d'en savoir plus que l'autre, et on ne dit pas ce qu'on sait. Donc il y a, au niveau du savoir, comme une pulsion sociale de gagner en savoir, et de gagner en puissance, d'appliquer ce savoir pour dominer le monde. Donc au niveau économique par exemple, les biens matériels existent, ils sont là sur Terre, mais ils sont précieux, mais ils sont aussi assez rares. Il n'y a pas pléthore d'or et d'argent dans tous les coins, donc c'est assez rare. Donc on essaie de se l'approprier, et c'est la rareté des choses, même parfois de la nourriture, dans certains pays ou certaines circonstances, la rareté des choses qui fait que, il y a un marché économique qui s'organise et qu'on évalue les prix, etc. Donc c'est une pulsion d'acquisition des biens et de consommation des biens, à la fois à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif. Ces biens sont là à tout le monde, d'une certaine manière, et pourtant, il faut qu'on les organise socialement pour qu'ils soient distribués plus ou moins de manière juste. Voilà, les structures, ce sont ces forces, ces dynamismes qui sont comme subconscients, inconscients dans la société, dans les individus d'abord, mais dans la société aussi, et qui ne demandent qu'une chose, c'est à s'exprimer, à se manifester, et ils ne peuvent le faire qu'à travers une institution qui, les canalise, les précise, les détermine, et finalement leur donne un moyen de vraiment s'exprimer. Donc la différence entre la structure et l'institution, c'est que la structure, c'est une définition de Ladrière, est comme une pulsion, une force bien précise, puissante, qui veut s'exprimer, se manifester, mais qui ne peut pas le faire de manière sauvage, et qui le fait donc à travers ce que les hommes ont inventé eux-mêmes, des institutions qui leur permettent de mieux s'organiser, de mieux progresser. Conflit et intégration. Donc avec ça, j'ai parlé de structure et institution. Nature et culture, la structure est de l'ordre de la nature, dans la manière dont je m'exprime ici avec Ladrière, et l'institution est de l'ordre de la culture. Mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme si on disait, quelle est la différence entre l'amour comme désir puissant qui est en nous et le mariage. C'est la même chose, mais l'un organise les forces de l'autre. Donc le désir d'aimer, le désir d'être aimé, le désir d'être heureux, il est lâché tous, et puis ça s'organise de manière bien précise dans le mariage, la famille ou d'autres institutions qui regroupent et qui organise tous ces instincts de rapprochement entre les personnes, de conjugalité, de parentalité, tout ça. Si bien que le mariage est une institution très importante qui peut prendre une forme monogamique, une forme polygamique. Alors les raisons de l'un plutôt que de l'autre, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs économiques. Bien sûr, il y a aussi des facteurs simplement de style, je dirais, de instinctuel, bien sûr, hein, de style de domination, mais il y a aussi des facteurs économiques, il y a aussi des facteurs religieux, bien sûr, des facteurs rationnels. Hein, voilà. Mais le mariage est donc une institution, c'est pas comme une école, université, mais c'est quand même un concept, hein, qui est partagé dans une société. C'est comme ça qu'on se marie, et c'est pas autrement qu'on le fait à travers les âges, dans telle et telle société. Bien sûr, ça peut varier. Hein. Bien sûr, il y a des conflits, bien sûr, il y a des critiques, mais toutes ces critiques permettent à l'institution, ben, de se préciser, de s'adapter, voilà, hein, aux nouveautés de l'histoire. Conflit et intégration, donc, c'était des choses que j'ai déjà évoquées, hein. C'est que cette transmission des valeurs ne se fait pas sans effort. Hein. Sans effort de la part de celui qui veut les assimiler. Qui veut les assimiler parce que ces valeurs l'attirent, mais aussi parce qu'il conteste un petit peu la manière dont on veut lui transmettre ces valeurs. Il veut les faire grandir. Par exemple, l'histoire de l'art, c'est la même chose. Hein. Chaque génération d'artistes, ben, veut faire mieux que les maîtres. Hein, conteste certaines de leurs règles, certains de leurs... de leurs standards et de leurs modèles, mais c'est la même veine, hein, d'exprimer ce qui est beau, qui est ici canalisé d'une manière différente. Donc voilà, les institutions sont toujours un petit peu en bouillonnement de critiques, de conflits, etc. Mais bien sûr, l'institution ne survit que si elle parvient à intégrer tout cela, hein, à faire droit à ces critiques. Hein, à ne pas se laisser détruire par ces critiques, mais à y faire droit pour évoluer. Alors, par parenthèse, vous vous souvenez que j'ai aussi utilisé les catégories hegeliennes d'ailleurs, de universel, particulier, singulier. Hein. Universel, particulier, singulier. On pourrait dire que les institutions, très souvent, représentent comme l'universel, à travers lequel les particuliers doivent... transiter, hein, pour devenir vraiment une personne singulière. C'est en passant par cette dure école de l'institution qui transmet ses valeurs que l'individu un peu mal dégrossi, un peu sauvage qui se présente là, hein, qui est très particulier, eh bien, devient vraiment une personne affinée et en harmonie avec l'universel, les valeurs universelles, sans ces valeurs que représentent les institutions. Autorité et bien commun. Voilà, je l'ai mis là tout au-dessus de la feuille, hein, comme correspondant à l'esprit. L'autorité, j'en ai déjà parlé, donc l'institution est toujours représentée par des personnes. Par des personnes qui font d'autant plus autorité qu'elles sont en cohérence, en harmonie, hein, avec le sens et la valeur que veut transmettre l'institution. Certaines personnes attestent plus une valeur qu'une autre. Par exemple, un philosophe, en principe, atteste, eh ben, la valeur de la vérité. Un écrivain comme Solzhenitsyn, ben, affirme la valeur de la liberté, à un moment où il est nié. Chaque témoin, hein, d'une valeur ou d'un sens, eh bien, proclame ce qu'il a à dire et essaye de... voilà, d'attirer les autres à partir de ce discours, à partir de cette œuvre qu'il fait. Il témoigne de cette valeur et il veut la transmettre en faisant autorité par sa propre cohérence avec ses valeurs. Les personnes qui font autorité le doivent, comme je l'ai déjà dit, non seulement à elles-mêmes, mais aussi à l'institution, hein, qui les porte et qu'elles représentent. Et voilà, donc, je suis un peu occupé à achever en disant que les institutions, eh bien, à différents niveaux, il y en a beaucoup, elles se chevauchent parfois, elles sont plus ou moins importantes au niveau du nombre de personnes qui sont réunies, au niveau de leur longévité dans le temps, etc. Mais toutes ces institutions, finalement, essayent de mettre en avant un bien commun, de valeur plus ou moins élevée, de mettre en avant un bien commun qui réunit les libertés qui collaborent à la transmission de ces sens et valeurs par la parole et par la volonté déterminée de faire avancer ces valeurs. Elles sont soutenues par des structures très puissantes, mais qui sont souvent assez inconscientes dans la société. Et je dirais que faire une analyse sociale, eh bien c'est quoi ? Analyser une société, c'est quoi ? Eh bien c'est essayer de discerner les valeurs qu'une société essaie de vivre, les valeurs. De voir comment il y a des structures naturelles qui sont à la base de ces valeurs. Par exemple, un peuple n'est pas un autre. Être dans un pays chaud n'est pas la même chose que d'être dans un pays froid, ça fait partie des structures. Il y a des choses qui sont plus naturelles à tel tempérament, germanique ou slave ou africain ou chinois, je ne sais pas quoi. Donc ce sont des structures qui, je dirais, s'institutionnalisent dans certaines institutions et donc mettent en avant des valeurs. Analyser donc une société, c'est discerner les valeurs, dégager les structures qui sont à la source de ces valeurs, interpréter les conflits à l'intérieur des institutions ou entre les institutions, et finalement reconnaître comment ces conflits parviennent à intégrer leurs membres à l'intérieur d'une recherche, d'une référence commune, d'un bien commun qui est d'ordre le plus élevé possible. Et c'est ça que finalement tous recherchent, c'est le bonheur le plus élevé possible, un bien commun, mais nous ne sommes absolument pas d'accord au point de départ sur ce qu'est ce bien commun. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. Voilà, je vais arrêter ici mon cours.